Chapitre 1. Tu y crois si bien à ces idées-là, mon cher, que tu as abandonné l'adultère, l'amour, l'ambition, tous les sujets apprivoisés du roman moderne, pour écrire l'histoire de Gilles de Rais. Et après un silence, il ajoute : Je ne reproche au naturalisme ni ses termes de ponton, ni son vocabulaire de latrine et d'hospice, car ce serait injuste et ce serait absurde. D'abord, certains sujets les hèlent. Puis, avec des gravats d'expression et du bray de mots, l'on peut exaucer d'énormes et de puissantes œuvres. L'Assommoir de Zola le prouve. Non, la question est autre. Ce que je reproche au naturalisme, ce n'est pas le lourd badigeon de son gros style, c'est l'immondice de ses idées. Ce que je lui reproche, c'est d'avoir incarné le matérialisme dans la littérature, d'avoir glorifié la démocratie de l'art. Oui, tu diras ce que tu voudras, mon bon, mais tout de même, quelle théorie de cerveau malfamé, quel miteux et étroit système. Vouloir se confiner dans les buanderies de la chair, rejeter le suprasensible, dénier le rêve, ne pas même comprendre que la curiosité de l'art commence là où les sens cessent de servir. Tu lèves les épaules. Mais voyons, qu'a-t-il donc vu ton naturalisme dans tous ces décourageants mystères qui nous entourent? Rien. Quand il s'est agi d'expliquer une passion quelconque, quand il a fallu sonder une plaie, déterger même le plus bénin des bobos de l'âme, il a tout mis sur le compte des appétits et des instincts. Rut et coup de folie, ce sont là ses seules diathèses. En somme, il n'a fouillé que des dessous de nombril et banalement divagué dès qu'il s'approchait des aînes. C'est un hernière de sentiments, un bandagiste d'âme, et voilà tout. Puis, vois-tu Durtal, il n'est pas qu'inexpert et obtus, il est fétide, car il a prôné cette vie moderne, atroce, vanté l'américanisme nouveau des mœurs, abouti à l'éloge de la force brutale, à l'apothéose du coffre-fort. Par un prodige d'humilité, il a révéré le goût nauséeux des foules, et par cela même, il a répudié le style, rejeté toute pensée altière, tout élan vers le surnaturel et l'au-delà. Il a si bien représenté les idées bourgeoises qu'il semble, ma parole, issu de l'accouplement de Lisa la charcutière du ventre de Paris et de Homais. « Matin, tu y vas, toi !» répondit Durtal, d'un ton piqué. Il ralluma sa cigarette, puis « Le matérialisme me répugne tout autant qu'à toi, mais ce n'est pas une raison pour nier les inoubliables services que les naturalistes ont rendus à l'art. Car enfin, ce sont eux qui nous ont débarrassés des inhumains fantoches du romantisme et qui ont extrait la littérature d'un idéalisme de ganache et d'une inanition de vieille fille exaltée par le célibat. En somme, après Balzac, ils ont créé des êtres visibles et palpables, et ils les ont mis en accord avec leurs alentours. Ils ont aidé au développement de la langue commencée par les romantiques. Ils ont connu le véritable rire et ont eu parfois même le don des larmes. Enfin, ils n'ont pas toujours été soulevés par le fanatisme de bassesse dont tu parles. Si, car ils aiment leur siècle, et cela les juge. Mais que diable, ni Flaubert, ni les de Goncourt ne l'aimaient leur siècle. Je te l'accorde. Ils sont ceux-là de probres et de séditieux et de hautains artistes. Aussi je les place tout à fait à part. J'avoue même, et sans me faire prier, que Zola est un grand paysagiste et un prodigieux manieur de masse et truchement de peuple. Puis il n'a, Dieu merci, pas suivi jusqu'au bout dans ses romans les théories de ses articles qui adulent l'intrusion du positivisme en l'art. Mais chez son meilleur élève, chez Rony, le seul romancier de talent qui se soit en somme imprégné des idées du maître, c'est devenu, dans un jargon de chimie malade, un laborieux étalage d'érudition laïque, de la science de contremaître. Non, il n'y a pas à dire. Toute l'école naturaliste reflète les appétences d'un affreux temps. Avec elle, nous en sommes venus à un art si rampant et si plat que je l'appellerais volontiers le cloportisme. Puis quoi? Relis donc ces derniers livres. Qu'y trouves-tu? Dans un style en mauvais vert de couleur, de simples anecdotes, des faits divers découpés dans un journal, rien que des contes fatigués et des histoires véreuses, sans même l'été d'une idée sur la vie, sur l'âme, qui les soutiennent. J'en arrive même, après avoir terminé ces volumes, à ne même plus me rappeler les incontinentes descriptions, les insipides harangues qu'ils renferment. Il ne me reste que la surprise de penser qu'un homme a pu écrire 300 à 400 pages alors qu'il n'avait absolument rien à nous révéler, rien à nous dire. Tiens, des Hermiès, si ça t'est égal, parlons d'autre chose. Car nous ne nous entendrons jamais bien sur ce naturalisme dont le seul nom t'affole. Voyons, et cette médecine Mattei, que devient-elle? Tes fioles d'électricité et tes globules soulagent-ils au moins quelques malades? Peu. Ils guérissent un peu mieux que les panacées du codex, ce qui ne veut pas dire que leurs effets soient continus et sûrs. Du reste, ça ou autre chose. Sur ce, je file, mon bon, car 10 heures sonnent et ton concierge va dans l'escalier éteindre le gaz. Bonsoir, à bientôt, n'est-ce pas? Quand la porte fut refermée, Durtal jeta quelques pelletées de coq dans sa grille et se prit à songer. Cette discussion avec son ami l'irritait d'autant plus qu'il se battait depuis des mois avec lui-même et que des théories qu'il avait crues inébranlables s'entamaient maintenant, s'effritaient peu à peu, lui emplissaient l'esprit comme de décombres. En dépit de leur violence, les jugements de deux Hermiès le troublaient. Certes, le naturalisme, confiné dans les monotones études d'êtres médiocres, évoluant parmi d'interminables inventaires de salons et de champs, conduisait tout droit à la stérilité la plus complète, si l'on était honnête ou clairvoyant, et, dans le cas contraire, au plus fastidieux des rabâchages, aux plus fatigantes des redites. Mais Durtal ne voyait pas, en dehors du naturalisme, un roman qui fût possible, à moins d'en revenir aux explosibles fariboles des romantiques, aux œuvres lanugineuses des Cherbuliez et des Feuillets, ou bien encore aux lacrymales historiettes des Theuriet et des Sandes. Alors quoi? Et Durtal se butait, mis au pied du mur, contre des théories confuses, des postulations incertaines, difficiles à se figurer, malaisées à délimiter, impossibles à clore. Il ne parvenait pas à se définir ce qu'il sentait, ou bien il aboutissait à une impasse dans laquelle il craignait d'entrer. Il faudrait, se disait-il, garder la véracité du document, la précision du détail, la langue étoffée et nerveuse du réalisme. Mais il faudrait aussi se faire puisatier d'âme et ne pas vouloir expliquer le mystère par les maladies des sens. Le roman, si cela se pouvait, devrait se diviser de lui-même en deux parts, néanmoins soudées ou plutôt confondues, comme elles le sont dans la vie, celle de l'âme, celle du corps, et s'occuper de leurs réactifs, de leurs conflits, de leurs ententes. Il faudrait, en un mot, suivre la grande voie si profondément creusée par Zola. Mais il serait nécessaire aussi de tracer en l'air un chemin parallèle, une autre route, d'atteindre les en-deçà et les après, de faire, en un mot, un naturalisme spiritualiste, ce serait autrement fier, autrement complet, autrement fort. Et personne ne le fait pour l'instant en somme, tout au plus pourrait-on citer comme se rapprochant de ce concept Dostoïevski. Et encore, est-il bien moins un réaliste surélevé qu'un socialiste évangélique, cet exorable russe? En France, à l'heure présente, dans le discrédit où sombre la recette corporelle seule, il reste deux clans. Le clan libéral, qui met le naturalisme à la portée des salons en l'émondant de tout sujet hardi, de toute langue neuve, et le clan décadent, qui, plus absolu, rejette les cadres, les alentours, les corps même, et divague, sous prétexte de causette d'âme, dans l'inintelligible charabia des télégrammes. En réalité, celui-là se borne à cacher l'incomparable disette de ses idées sous un ahurissement voulu du style. Quant aux orléanistes de la vérité, Durtal ne pouvait songer sans rire aux coriaces et gaminants fratras de ces soi-disant psychologues qui n'avaient jamais exploré un district inconnu de l'esprit, qui n'avaient jamais révélé le moindre coin oublié d'une passion quelconque. Il se bornait à jeter dans les juleps de feuillet les sels secs de Stendhal. C'étaient des pastilles mi-sel, mi-sucre, de la littérature de Vichy. En somme, il recommençait les devoirs de philosophie et les dissertations du collège dans leurs romans comme si une simple réplique de Balzac, celle par exemple qu'il prête au vieil Hulot dans La cousine bête, « Pourrais-je emmener la petite ?» n'éclairait pas autrement un fond d'âme que toutes ces leçons de grand concours. Puis il n'y avait à attendre d'eux aucune envolée, aucun élan vers les ailleurs. Le véritable psychologue du siècle, se disait Durtal, ce n'est pas leur Stendhal, mais bien cet étonnant Hélot dont l'inexpugnable insuccès tient du prodige. Et il arrivait à croire que Des Hermies avait raison. C'était vrai. Il n'y avait plus rien debout dans les lettres en désarroi, rien sinon un besoin surnaturel qui, à défaut d'idées plus élevées, trébuchait de toutes parts, comme il pouvait, dans le spiritisme et dans l'occulte. En s'acculant ainsi à ses pensées, il finissait, pour se rapprocher de cet idéal qu'il voulait quand même joindre, par louvoyer, par bifurquer et s'arrêter à un autre art, à la peinture. Là, il le trouvait pleinement réalisé par les primitifs, cet idéal. Cela avait, dans l'Italie, dans l'Allemagne, dans les Flandres surtout, clamé les blanches ampleurs des âmes saintes, dans leurs décors authentiques, patiemment certains. Des êtres surgissaient en des postures prises sur le vif, d'une réalité surprenante et sûre. Et de ces gens à tête souvent commune, de ces physionomies parfois laides mais puissamment évoquées dans leurs ensembles, émanaient des joies célestes, des détresses aiguës, des bonasses d'esprit, des cyclones d'âme. Il y avait en quelque sorte une transformation de la matière, détendue ou comprimée, une échappée hors des sens sur d'infinis lointains. La révélation de ce naturalisme, Durtal l'avait eue l'an passé, alors qu'il était moins qu'aujourd'hui pourtant excédé par l'ignominieux spectacle de cette fin de siècle. C'était en Allemagne, devant une crucifixion de Matthäus Grünewald. Et il frissonna dans son fauteuil et ferma presque douloureusement les yeux. Avec une extraordinaire lucidité, il revoyait ce tableau, là, devant lui, maintenant qu'il l'évoquait. Et ce cri d'admiration qu'il avait poussé en entrant dans la petite salle du musée de Cassel, il l'hurlait mentalement encore, alors que dans sa chambre, le Christ se dressait, formidable, sur sa croix, dont le tronc était traversé en guise de bras par une branche d'arbre mal écorcée, qui se courbait, ainsi qu'un arc sous le poids du corps. Cette branche semblait prête à se redresser et à lancer par pitié, loin de ce terroir d'outrage et de crime, cette pauvre chair que maintenaient vers le sol les énormes clous qui trouaient les pieds. Démanché, presque arraché des épaules, les bras du Christ paraissaient garrottés dans toute leur longueur par les courroies enroulées des muscles. Les selles éclamées craquaient. Les mains, grandes ouvertes, brandissaient des doigts hagards qui bénissaient quand même dans un geste confus de prière et de reproche. Les pectoraux tremblaient, beurrés par les sueurs. Le torse était rayé de cercles de douves par la cage divulguée des côtes. Les chairs gonflées, salpêtrées et bleuies, persillées de morsures de puces, mouchetées comme de coups d'aiguille par les pointes des verges, qui, brisée sous la peau, l'alardait encore çà et là des chardes. L'heure des sanies était venue. La plaie fluviale du flanc ruisselait plus épaisse, inondait la hanche d'un sang pareil au jus foncé des murs. Des sérosités rosâtres, des petits laits, des os semblables à des vins de Moselle gris, suintaient de la poitrine, trempaient le ventre, au-dessous duquel ondulait le panneau bouillonné d'un linge. Puis les genoux, rapprochés de force, heurtaient leur rotule, et les jambes tordues s'évidaient jusqu'aux pieds qui ramenaient l'un sur l'autre s'allonger, poussés en pleine putréfaction, verdissaient dans des flots de sang. Ses pieds spongieux et caillés étaient horribles. La chair bourgeonnait, remontaient sur la tête du clou, et leurs doigts crispés contredisaient le geste implorant des mains, maudissaient, griffaient, presque avec la corne bleue de leurs ongles, l'ocre du sol chargé de fer, pareil aux terres empourprées de la Thuringe. Au-dessus de ce cadavre en éruption, la tête apparaissait tumultueuse et énorme, cerclée d'une couronne désordonnée d'épines. Elle pendait, exténuée, entr'ouvrait à peine un œil hâve, où frissonnait encore un regard de douleur et d'effroi. La face était montueuse, le front démantelé, les joues taries, tous les traits renversés pleuraient, tandis que la bouche décelée riait avec sa mâchoire contractée par des secousses titaniques, atroces. Le supplice avait été épouvantable. L'agonie avait terrifié l'allégresse des bourreaux en fuite. Maintenant, dans le ciel d'un bleu de nuit, la croix paraissait se tasser, très basse, presque au ras du sol, veillée par deux figures qui se tenaient de chaque côté du Christ. L'une, la Vierge, coiffée d'une capuce d'un rose de sang séreux, tombant des ondes pressées sur une robe d'azur là, long pli. La Vierge rigide et pâle, bouffie de larmes, qui, les yeux fixes, sanglote en s'enfonçant les ongles dans les doigts des mains. L'autre, Saint Jean, une sorte de vagabond, de rustre basané de la soie, à la haute stature, à la barbe frisottée en de petits copeaux, vêtu d'étoffes à larges pans comme taillées dans de l'écorce d'arbre, d'une robe écarlate, d'un manteau jaune chamoisé dont la doublure, retroussée près des manches, tournait au vert fiévreux des citrons pas mûrs. Épuisé de pleurs, mais plus résistant que Marie, brisé et rejeté quand même debout. Il joint les mains en un élan, s'exhausse vers ce cadavre qu'il contemple de ses yeux rouges et fumeux, et il suffoque et crie, en silence, dans le tumulte de sa gorge sourde. Ah, devant ce calvaire barbouillé de sang et brouillé de larmes, l'on était loin de ces débonnaires Golgotha que depuis la Renaissance l'Église adopte. Ce Christ au tétanos n'était pas le Christ des riches, l'Adonis de Galilée, le belâtre bien portant, le joli garçon aux mèches rousses, à la barbe divisée, aux traits chevalins et fades, que depuis 400 ans les fidèles adorent. Celui-là, c'était le Christ de Saint Justin, de Saint Basile, de Saint Cyril, de Tertullien, le Christ des premiers siècles de l'Église, le Christ vulgaire, laid parce qu'il assuma toute la somme des péchés et qu'il revêtit, par humilité, les formes les plus abjectes. C'était le Christ des pauvres, celui qui s'était assimilé aux plus misérables de ceux qu'il venait racheter, aux disgraciés et aux mendiants, à tous ceux sur la laideur ou l'indigence desquels s'acharne la lâcheté de l'homme. Et c'était aussi le plus humain des Christs, un Christ à la chair triste et faible, abandonné par le Père, qui n'était intervenu que lorsqu'aucune douleur nouvelle n'était possible. Le Christ assisté seulement de sa mère qu'il avait dû, ainsi que tous ceux que l'on torture, appelés dans des cris d'enfant, de sa mère, impuissante alors et inutile. Par une dernière humilité, sans doute, il avait supporté que la passion ne dépassât point l'envergure permise au sens. Et, obéissant à d'incompréhensibles ordres, il avait accepté que sa divinité fût comme interrompue depuis les soufflets, les coups de verge, les insultes et les crachats, depuis toutes ces maraudes de la souffrance, jusqu'aux effroyables douleurs d'une agonie sans fin. Il avait ainsi pu mieux souffrir, râler, crever, ainsi qu'un bandit, ainsi qu'un chien, salement, bassement, en allant dans cette déchéance jusqu'au bout, jusqu'à l'ignominie de la pourriture, jusqu'à la dernière avanie du pus. Certes, jamais le naturalisme ne s'était encore évadé dans des sujets pareils. Jamais peintre n'avait brassé de la sorte le charnier divin et si brutalement trempé son pinceau dans les plaques des humeurs et dans les godets sanguinolents des trous. C'était excessif et c'était terrible. Grunewald était le plus forcené des réalistes, mais à regarder ce rédempteur de vadrouille, ce dieu de morgue, cela changeait. De cette tête exulcérée filtrait des lueurs. Une expression surhumaine illuminait l'effervescence des chairs, l'éclaircie des traits. Cette charogne éployée était celle d'un dieu, et sans auréole, sans nimbe, dans le simple accoutrement de cette couronne ébouriffée. Semée de grains rouges par des points de sang, Jésus apparaissait, dans sa céleste supérescence, entre la Vierge foudroyée, ivre de pleurs, et le Saint Jean, dont les yeux calcinés ne parvenaient plus à fondre des larmes. Ses visages, d'abord si vulgaires, resplendissaient, transfigurés par des excès d'âme inouïe. Il n'y avait plus de brigands, plus de pauvresse, plus de rustres, mais des êtres supraterrestres auprès d'un dieu. Grunewald était le plus forcené des idéalistes. Jamais peintre n'avait si magnifiquement exalté l'altitude et si résolument bondi de la cime de l'âme dans l'orbe éperdu d'un ciel. Il était allé aux deux extrêmes et il avait d'une triomphale ordure extrait les mentes les plus fines des dilections, les essences les plus acérées des pleurs. Dans cette toile se révélait le chef-d'œuvre de l'art acculé, sommé de rendre l'invisible et le tangible, de manifester l'immondice éplorée du corps, de sublimer la détresse infinie de l'âme. Non, cela n'avait d'équivalent dans aucune langue. En littérature, certaines pages d'Anne Emmerich sur la passion se rapprochaient, mais atténuées de cet idéal de réalisme surnaturel et de vie véridique et exsurgée. Peut-être aussi certaines effusions de Ruysbroeck s'élançant des jets géminés de flammes blanches et noires rappelaient-elles, pour certains détails, la divine abjection de Grunewald. Et encore non, cela restait unique, car c'était tout à la fois hors de portée et à ras de terre. Mais alors, se dit Durtal, qui s'éveillait de sa songerie, mais alors, si je suis logique, j'aboutis au catholicisme du Moyen-Âge, au naturalisme mystique, à Hannon par exemple, et si, pourtant. Il se retrouvait devant cette impasse dont il s'écartait alors qu'il en percevait l'entrée. Car il avait beau se sculpter, il ne se sentait soulevé par aucune foi. Décidément, il n'y avait de la part de Dieu aucune prémotion et lui-même manquait de cette nécessaire volonté qui permet de se délaisser, de glisser, sans se retenir dans la ténèbre des immutables dogmes. Restant, après certaines lectures, alors que le dégoût de la vie ambiante s'accentuait, il enviait des heures lénitives au fond d'un cloître, des somnolences de prières éparses dans des fumées d'encens, des épuisements d'idées voguant la dérive dans le chant des psaumes. Mais pour savourer ces allégresses de l'abandon, il fallait une âme simple, allégée de tout déchet, une âme nue et la sienne était obstruée par des boues, macérée dans le jus concentré des vieux guano. Il pouvait se l'avouer, ce désir momentané de croire pour se réfugier hors des âges, sourdé bien souvent d'un fumier de pensées mesquines, d'une lassitude de détails infimes mais répétés, d'une défaillance d'âme transie par la quarantaine, par les discussions avec les blanchisseuses et les gargotes, par des déboires d'argent, par des ennuis de terme. Il songeait un peu à se sauver dans un couvent, ainsi que ses filles qui entrent en maison pour se soustraire aux dangers des chasses, aux soucis de la nourriture et du loyer, aux soins du linge de maison. Resté célibataire et sans fortune, peu soucieux maintenant des ébats charnels, il maugréait certains jours contre cette existence qu'il s'était faite. Forcément, dans ces heures où, las de se battre contre des phrases, il jetait sa plume, il regardait devant lui et ne voyait dans l'avenir que des sujets d'amertume et d'alarme. Alors il cherchait des consolations, des apaisements, et il en était bien réduit à se dire que la religion était la seule qui sache encore penser avec les plus veloutés des onguents, les plus impatientes des plaies. Mais elle exige en retour une telle désertion du sens commun, une telle volonté de ne plus s'étonner de rien, qu'il s'en écartait, tout en l'épiant. Et en effet, il rôdait constamment autour d'elle, car si elle ne repose sur aucune base qui soit sûre, elle jaillit du moins en de telles efflorescences que jamais l'âme n'a pu s'enrouler sur de plus ardentes tiges et monter avec elle et se perdre dans le ravissement, hors des distances, hors des mondes, à des hauteurs plus inouïes. Puis elle agissait encore sur Durtal par son art extatique et intime, par la splendeur de ses légendes, par la rayonnante naïveté de ses vies de saints. Il n'y croyait pas, et cependant il admettait le surnaturel, car sur cette terre même, comment nier le mystère qui surgit chez nous, à nos côtés, dans la rue, partout, quand on y songe? Il était vraiment trop facile de rejeter les relations invisibles, extra-humaines, de mettre sur le compte du hasard, qui est lui-même d'ailleurs indéchiffrable, les événements imprévus, les dévaines et les chances. Des rencontres? Ne décidait-elle pas souvent de toute la vie d'un homme? Qu'était l'amour, les influences incompréhensibles et pourtant formelles? Enfin, la plus désarçonnante des énigmes n'était-elle pas encore celle de l'argent? Car enfin, on se trouvait là en face d'une loi primordiale, d'une loi organique atroce, édictée et appliquée depuis que le monde existe. Ces règles sont continues et toujours nettes. L'argent s'attire lui-même, cherche à s'agglomérer aux mêmes endroits, va de préférence aux scélérats et aux médiocres. Puis, lorsque par une incrustable exception, il s'entasse chez un riche dont l'âme n'est ni meurtrière ni abjecte, alors il demeure stérile, incapable de se résoudre en un bien intelligent, inapte même entre des mains charitables à atteindre un but qui soit élevé. On dirait qu'il se venge ainsi de sa fausse destination, qu'il se paralyse volontairement quand il n'appartient ni au dernier des aigrefins, ni au plus repoussant des mufles. Il est plus singulier encore quand, par extraordinaire, il s'égare dans la maison d'un pauvre. Alors il le salit immédiatement s'il est propre. Il rend lubrique l'indigent le plus chaste, agit du même coup sur le corps et sur l'âme, suggère ensuite à son possesseur un bas égoïsme, un ignoble orgueil, lui insinue de dépenser son argent pour lui seul, fait du plus humble un laquais insolent, du plus généreux un ladre. Il change en une seconde toutes les habitudes, bouleverse toutes les idées, métamorphose les passions les plus têtues en un clin d'œil. Il est l'aliment le plus nutritif des importants péchés, et il en est en quelque sorte aussi le vigilant comptable. S'il permet à un détenteur de s'oublier, de faire l'aumône, d'obliger un pauvre, aussitôt il suscite la haine du bienfait à ce pauvre. Il remplace l'avarice par l'ingratitude, rétablit l'équilibre, si bien que le compte se balance, qu'il n'y a pas un péché de commis en moins. Mais où il devient vraiment monstrueux, c'est lorsque, cachant l'éclat de son nom sous le voile noir d'un mot, il s'intitule le capital. Alors son action ne se limite plus à des incitations individuelles, à des conseils de vol et de meurtre, mais elle s'étend à l'humanité tout entière. D'un mot, le capital décide les monopoles, édifie les banques, accapare les substances, dispose de la vie, peut, s'il le veut, faire mourir de faim des milliers d'êtres. Lui, pendant ce temps, se nourrit, s'engraisse, s'enfante tout seul dans une caisse. Et les deux mondes à genoux l'adorent, meurent de désir devant lui comme devant un dieu. Eh bien, où l'argent qui est ainsi maître des âmes est diabolique, où il est impossible à expliquer. Et combien d'autres mystères aussi inintelligibles que celui-là? Combien d'occurrences devant lesquelles l'homme qui réfléchit devrait trembler. Mais, se disait Durtal, du moment que l'on patauge dans l'inconnu, pourquoi ne pas croire à la Trinité? Pourquoi repousser la divinité du Christ? On peut aussi facilement admettre le credo quia absurdum de saint Augustin et se répéter avec Tertullien que si le surnaturel était compréhensible, il ne serait pas le surnaturel et que c'est justement parce qu'il outrepasse les facultés de l'homme qu'il est divin. Ah, et puis zut, en fin de compte, il est plus simple de ne pas songer à tout cela. Et une fois de plus, il recula, ne pouvant décider son âme à faire le saut alors qu'elle se trouvait au bord de la raison, dans le vide. Au fond, il avait vagabondé loin de son point de départ, de ce naturalisme si conspué par des Hermiès. Il revenait maintenant à mi-route, jusqu'au Grunewald, et il se disait que ce tableau était le prototype exaspéré de l'art. Il était bien inutile d'aller aussi loin, d'échouer sous prétexte d'au-delà dans le catholicisme le plus fervent. Il lui suffirait peut-être d'être spiritualiste pour s'imaginer le supranaturalisme, la seule formule qui lui convainc. Il se leva, se promena dans sa petite pièce. Les manuscrits qui s'entassaient sur la table, ses notes sur le maréchal de Ré, dit Barbe Bleue, le déridèrent. Tout de même, fit-il presque joyeux, il n'y a de bonheur que chez soi et au-dessus du temps. Ah, s'écrouer dans le passé, revivre au loin, ne plus même lire un journal, ne pas savoir si des théâtres existent, quel rêve! Et ce que Barbe Bleue m'intéresse plus que l'épicier du coin, que tous ces comparses d'une époque qu'allégorisent si parfaitement le garçon de café qui, pour s'enrichir, en juste noces, viole la fille de son patron, la bécasse comme il la nomme. Ça, il le lit, ajouta-t-il en souriant, car il voyait son chat, bête très bien informée des heures, le regarder avec inquiétude, le rappeler à de mutuelles convenances, en lui reprochant de ne pas préparer la couche. Il arrangea les oreillers, ouvrit la couverture, et le chat sauta sur le pied du lit, mais resta assis, la queue ramenée sur ses deux pattes, attendant que son maître se fût étendu pour piétiner la place et faire son creux.